Merci Roger. Voilà, donc comme vient de le dire Roger Guénry, j'essaie d'être à la fois un peu économiste et un peu historien, j'espère pas trop mal de chacun. Et donc j'essaie d'utiliser des exemples historiques pour comprendre un certain nombre de mécanismes économiques. Et évidemment, depuis quelques années, je suis revenu à d'anciennes amours sur l'histoire des crises. Et en particulier pour réfléchir à la manière dont les banques centrales agissent, ont appris à agir progressivement face à ces crises financières. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux crises qui ont joué un rôle non négligeable dans l'apprentissage de la Banque de France, qui sont la crise de 1882 et celle de 1889. Ce sont deux crises très différentes, c'est pour ça que je les ai choisies. La crise de 1882 est une crise, à la fois il y a une crise bancaire qui concerne une très grande banque récente qui s'appelle l'Union Générale, et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est aussi une crise du marché boursier, où le marché lui-même va faire faillite. Je vais expliquer plus précisément en quoi ça consiste dans une minute. Et donc, la Banque centrale va intervenir pour sauver non pas la banque qui fait faillite, elle considère que c'est de sa faute, elle a fait des erreurs, elle paye, et la banque fait faillite. Il y a un dossier d'archives avec la liste des créanciers qui fait à peu près sa d'épaisseur, c'est assez considérable. Mais elle sauve le marché. En 1889, la Banque de France va à nouveau intervenir, et cette fois-ci, elle va sauver une banque, le comptoir d'escompte de Paris, qui est en faillite, qui est au bord de la faillite. Et donc, je vais vous raconter ces deux épisodes, essayons de comprendre un tout petit peu pourquoi la banque est intervenue dans les deux cas, mais évidemment, ça a quelque chose à voir avec la question de sauver le marché d'une panique financière, même si ce terme de panique, évidemment, est extrêmement difficile à observer empiriquement. Dans un modèle, on peut représenter les interactions entre agents financiers qui conduisent à une panique, entre agents financiers et non financiers, mais empiriquement, ce n'est pas toujours si facile à observer, surtout quand on prétend l'éviter, et donc ensuite, on ne sait pas si ça aurait eu lieu en l'absence de ce que l'on a fait. Alors, la Banque de France, il faut bien voir que aujourd'hui, on se dit que c'est une banque centrale. Une banque centrale, on a une idée assez claire de ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui a évolué. Et en fait, au moment que nous étudions, c'est une chose qui est en train de prendre forme. La banque centrale ne s'appelle pas encore une banque centrale, ça s'appelle un institut d'émission à l'époque. Et parce que ça a un privilège d'émission de billets. Un privilège d'émission de billets, après tout, ça n'a pas beaucoup de sens. N'importe qui peut émettre des billets quand ils sont convertibles en or, ce qui est le cas des billets de la Banque de France. Ça n'est pas très différent qualitativement d'une reconnaissance de dette par une autre banque. Donc, ce qui fait la supériorité de la Banque de France progressivement entre sa fondation en 1800 et le moment où on est là, c'est que dans certaines circonstances, sa monnaie, c'est-à-dire ses billets, mais aussi les dépôts que les autres banques font dans ses caisses, eh bien, cette monnaie se voit octroyer un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle est acceptée mieux que les autres. À un moment où ça n'est pas une obligation légale même, et à un moment où cette monnaie a finalement un statut légal pas très différent des autres monnaies. Donc ce qui est important, c'est que c'est une espèce de reconnaissance progressive de cette supériorité qui a lieu pendant le 19e siècle. Ça a lieu assez vite, puisque évidemment la Banque de France est créée comme une espèce de club des principales banques parisiennes en 1800, de sorte que déjà si les principales banques se mettent ensemble pour créer un club qui leur servira d'espèce de caisse de refinancement en cas de difficulté, évidemment, elle est prédestinée en quelque sorte à ce rôle. Mais elle joue ce rôle lors de plusieurs crises dans le courant du XIXe siècle, commençant par la crise de 1811, et puis ça continue assez régulièrement. Mais chaque fois, c'est au coup par coup, regarde ce qui va se passer. Et en 1882, on va avoir un épisode assez nouveau qui est l'intervention pour sauver le marché boursier dans son ensemble. Alors, quel est le contexte ? Le contexte, c'est un contexte d'une décennie d'enthousiasme financier, comme on en a quelquefois connu depuis, où, après la perte de la guerre de 1870, en fait, les Français, en partie grâce au succès des emprunts de libération du territoire, se lancent dans une frénésie d'activité financière. On crée des banques à peu près tous les jours, et les cours de bourse augmentent de manière régulière pendant la période. Et vous avez sur ce graphique le contexte des deux périodes. Vous voyez, en rose, c'est les cours des actions, et vous admirez que ça part de 1871, qui est juste après la défaite, c'est un moment désagréable, mais ça monte gentiment jusqu'à un pic qui est précisément en 1881, juste avant le bel effondrement qu'on observe qui va durer pendant les années suivantes. Donc le contexte, c'est vraiment, on est à la fin d'une décennie de croissance. Il y a une certaine croissance économique aussi, c'est la courbe verte. Et puis, bon, le niveau des prix est relativement stable. À ce moment-là, ça bouge un petit peu, mais c'est des indices qui ne sont pas forcément d'une fiabilité absolument aussi bonne qu'aujourd'hui. En revanche, en 1889, on est à la fin d'une période de récession. On a une baisse des prix tendancielle, on a eu une crise boursière et on a un revenu par habitant qui n'a pas pratiquement dépassé le niveau qu'il avait atteint en 1882. Donc on a eu une décennie assez défavorable à l'opposé de la précédente. Alors dans cette période très favorable des années 1870, a lieu la création de cette fameuse banque de l'Union Générale, créée en 1878 par un monsieur Paul-Eugène Bontout. Et monsieur Bontout est un proche des milieux catholiques conservateurs de la région lyonnaise, et il essaye de développer une banque sur un peu un credo nationaliste catholique, et d'attirer en particulier les légitimistes déçus. On est au moment où vient d'être réellement affirmer la République. Ça ne va pas du tout de soi en France. On a eu plusieurs monarchies, plusieurs empires, et on ne sait pas encore si la République va tenir. La dernière n'a pas duré longtemps, et les deux dernières même. Bon. Donc, il y a ce mouvement un peu politique, mais c'est surtout une banque qui se développe à très grande vitesse, puisqu'elle est créée en 1878, et elle a trois augmentations de capital en trois ans, donc, ce qui est quand même assez rapide. Et elle est parmi les... Il y a une augmentation de capital qui est prévue en janvier 1882 qui en ferait la plus grosse banque de France par le capital. Donc, très rapide développement, avec en plus tout un réseau d'entreprises liées, un petit peu dans le genre de ce qu'avaient fait les Pereire sous le Second Empire, c'est-à-dire on crée des compagnies de chemin de fer à droite, des entreprises de distribution d'eau à gauche, d'autres banques à l'étranger, etc. Tout un réseau d'entreprises qui, au total, pèse de l'ordre d'un milliard à ce moment-là. Un milliard, c'est à comparer à un PNB qui est de l'ordre de 20 milliards. Donc c'est une vraie somme. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et le cours de l'action Union Générale est passé de 500 à 3000 francs en moins de 3 ans. Donc vous voyez que le public pense que ça marche. Toute la bourse monte, mais vous voyez que la bourse ne double même pas la moyenne des cours. Alors que là, on est multiplié par 6 en seulement 3 ans. Donc la situation est apparemment très très favorable. Maintenant, il y a un moment où il va quand même y avoir un petit peu d'inquiétude de la part des autorités, et ça va se voir ici. Là-dessus, vous avez les taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt, pendant les années 70, ils baissent. Pourquoi est-ce qu'ils baissent ? Ils baissent parce qu'ils avaient monté pendant la guerre. Pendant la guerre et pour financer la libération du territoire, on a énormément monté les taux d'intérêt. Enfin, on les a montés et ils ont monté spontanément sur le marché. Et vous avez le taux du marché en rouge et le taux de la Banque de France en bleu. Vous remarquez que le taux de la Banque de France est stable souvent pendant des périodes substantielles. Et puis les taux à long terme en jaune. Évidemment, quand les taux à long terme baissent, ça a un effet favorable sur le marché des actions et... ça explique dans une large mesure la hausse du marché des actions pendant cette période-là. Mais, comme vous voyez, à partir de 1878, la Banque de France commence à s'inquiéter et remonte son taux de 2% qui avait été le minimum à 3%, et elle va même l'augmenter fin 1881 à 4%. Et c'est à ce moment-là que va être déclenchée la crise sur le marché, c'est à 4%, puis même 5%, et c'est à ce moment-là que la crise va se déclencher. Alors, ce qui permet d'observer très bien la crise boursière elle-même, c'est ce qui va se passer en bourse, évidemment, et c'est ce qui va se passer sur le marché des reports. Alors, les reports, qu'est-ce que c'est ? Quand vous achetez une action, à l'époque, vous pouvez l'acheter au comptant, mais ça, il y a vraiment peu de gens pour le faire, ou vous pouvez l'acheter à terme, c'est-à-dire pour livraison au prochain règlement. Le règlement, il y en a deux par mois. La prochaine compensation, c'est le 15 et le 31. Ça a existé encore jusque récemment à la Bourse de Paris. Si vous achetez à terme, c'est parce que vous n'avez pas d'argent et que vous vous dites, ça va monter. Le jour où j'arriverai à la date où je dois payer, je revendrai et je paierai avec le prix de la vente. Et si ça a monté, évidemment, j'y gagne. Et en fait, la plupart des gens, évidemment, en fait, ne demandent jamais la livraison du titre. Ils payent simplement la différence s'ils ont perdu, ou ils empochent simplement la différence s'ils ont gagné, lors de ce règlement. Le report consiste à, comme son nom l'indique, à reporter cette position jusqu'au règlement suivant. Évidemment, il y a des gens qui croient à la hausse, même quand elle ne vient pas, et qui reportent, de position en position, tant que on leur prête. Parce qu'évidemment, pour pouvoir avoir ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, en quelque sorte, prenne le titre à votre place et qui vous prête de l'argent pour le faire. Et donc, il y a un marché, qui est une sorte de marché monétaire implicite, dans lequel certains prêtent de l'argent et d'autres obtiennent, grâce à ça, le report de leur position. C'est un marché qui mesure très très bien à la fois les tensions sur le marché monétaire. On considère que les reports sur les titres sans risque, comme la rente publique pendant cette période-là, on considère que les reports sur la rente publique sont quasiment un marché monétaire sans risque. Mais on reporte aussi des titres risqués, et dans ces cas-là, évidemment, les taux peuvent s'accroître d'une prime de risque, parce que si la valeur du titre baisse trop, il y a un moment où il y a un risque que la personne qui s'est fait reporter non seulement ne puisse pas rembourser en vendant le titre, mais ne puisse pas rembourser du tout si elle n'a pas d'argent, et à ce moment-là, le prêteur risque de se retrouver sans un sou. Donc, en quelque sorte, ce sont des prêts qui ont comme collatéral, comme garantie, les actions qui sont reportées. Et là-dessus, vous avez les taux des reports en bleu, qui sont très liés au taux du marché monétaire qui est en vert, mais dont on voit que en 1881, début 1882, il connaît un pic très élevé, et ça, encore, c'est pour les reports sur les titres les plus sûrs. C'est un montant très élevé. En réalité, sur des titres plus risqués, on observe des taux de report qui montent à 10, 15, 20, 25. Et sur les titres de l'Union Générale, les taux de report montent à 29%. Pourquoi est-ce qu'ils montent à 29%? Parce que les gens sont inquiets, et ils ont des raisons d'être inquiets, puisque sur son augmentation de capital de 1881, en réalité, la banque a acheté elle-même un tiers des actions, et elle n'arrive pas à les revendre, et le bilan qu'elle fournit fin 1881 est falsifié. Les gens ne le savent pas encore, mais il doit y avoir des gens un peu habiles qui se doutent qu'il y a quelque chose qui se passe, de sorte que on commence à s'inquiéter, les taux des reports montent, et quand la Banque de France augmente encore son taux, on commence à voir baisser les cours des actions. L'action de l'Union Générale passe de plus de 3000 à 2300 francs, puis baisse à 1500, puis baisse à 500, à 400, et juste après, elle fait faillite. Et alors là, le problème devient, comment est-ce qu'on va traiter ce problème ? C'est une des plus grosses entreprises de la Bourse de Paris, et les gens ne vont pas perdre 100, 200, 300 francs par action, ils vont perdre jusqu'à 3500 francs par action. c'est-à-dire au total potentiellement 7 fois le capital. Les actions ont été émises à 500 francs, donc ces actions qui valent 500 francs, elles sont montées à 3500. Il y a une grosse quantité d'argent qui est potentiellement perdue. Ce qui met en danger le marché lui-même. Pourquoi est-ce que ça met en danger le marché lui-même ? Parce que les agents de change qui font les opérations à la Bourse de Paris garantissent la bonne fin des opérations. Donc, si leurs clients ne payent pas, eux-mêmes doivent payer. Or, on est dans une situation où il y a un risque non négligeable pour que les clients ne payent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un risque important ? Parce qu'il existe, à l'époque, une situation curieuse, c'est que le marché à terme dont je viens de parler est un marché considérable en termes quantitatifs. C'est juste une mesure de la hausse des transactions pendant la période. On voit qu'on atteint en 1882 des sommets. Mais le marché à terme, tel qu'on l'observe là-dessus, est vraiment le marché dominant. Alors, ici, ça ne se voit pas immédiatement. Forward, c'est le marché à terme, c'est en bleu. Vous voyez surtout qu'il explose en 1881. Il atteint des montants considérables. Alors, il a l'air plus petit que le marché au comptant, mais en réalité, ce qu'on mesure ici sur le marché à terme, ce sont les titres qui sont effectivement livrés. C'est-à-dire les gens qui achètent à terme et qui, à l'achèvement de la période, au moment où ils doivent payer, se font effectivement livrer les titres et payent. Alors que, comme je vous l'ai dit, dans la plupart des cas, les gens ne font pas livrer le titre, ils se contentent simplement de payer la différence entre le prix du titre sur le marché et le prix de leur pari, ou encaisser la différence, mais ils ne font pratiquement jamais livrer. En fait, on considère qu'il y a moins de 10% des opérations pour lesquelles il y a livraison effective. Ce que disent les gens de l'époque, et c'est ce qu'on peut reconstituer à partir des documents internes de la Bourse de Paris. Sorte que ce qu'on observe ici, on n'en a pas une mesure exacte, mais la valeur réelle des opérations à terme, c'est de l'ordre de 10 fois ce qu'on observe ici. Les montants sont en francs. Vous voyez, le maximum est atteint à 6 milliards. 6 milliards de montants livrés, ça fait probablement 50 à 60 milliards d'opérations, c'est-à-dire à peu près 3 fois le PNB. C'est un montant élevé, et s'il y a des pertes, ne serait-ce que sur une petite proportion de ça, ça peut faire des dégâts importants. Ça peut faire des dégâts importants auprès des opérateurs de la bourse, j'y reviens dans un instant, ça peut faire des dégâts importants aussi auprès des banques, parce que les principaux prêteurs sur le marché des reports, ce sont toutes les grandes banques de la place. Les principales banques ont quelquefois jusqu'à 1 milliard engagés en report. Et c'est pour elles un placement considéré comme généralement très sûr et très liquide. Donc elles se disent, je ne cours pas de problème, je ne cours pas de risque en faisant ça, sauf évidemment en cas de situation tout à fait exceptionnelle comme celle-ci. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les agents de change sont censés garantir la bonne fin des opérations. Ils se rendent compte que au moment où, cette livraison en fin janvier devrait avoir lieu, il risque de pas, d'avoir beaucoup de gens qui ne payent pas. Et ces gens ne vont pas payer parce qu'il existe en droit français une règle qui fait que les opérations à terme, bien qu'importantes, sont illégales et que par conséquent, on peut invoquer ce qu'on appelle l'exception de jeu et refuser de payer sans être poursuivi devant les tribunaux. Alors évidemment, il y a peu de chances que quelqu'un vous prête à nouveau par la suite, mais si ça vous permet de sauver votre mise une fois, il est probable qu'il y ait un certain nombre de gens qui vont accepter cette tentation et vont effectivement faire défaut. Donc les agents de change savent que le risque est élevé, et d'ailleurs il va s'avérer élevé, il va y avoir pour à peu près 120 millions de francs de pertes de gens qui vont effectivement ne pas payer. Et ils cherchent comment sauver leur peau. Et la seule solution, quand ils regardent, il y a deux solutions. Il y a une solution qui est de truquer le marché, c'est-à-dire de mettre un faux prix de règlement qui ne correspond pas à la réalité, mais qui permette de limiter les pertes et éventuellement de les étaler dans le temps. Au lieu de dire que les actions Société Union Générale ne valent plus que 400 francs à fin janvier, ils pourraient dire oh, elles valent encore 1500 francs, et à ce moment-là, les pertes sont la moitié de ce qu'elles seraient autrement, et on peut espérer faire passer les choses en deux ou trois fois. Ils ne choisissent pas cette solution. Ils choisissent une solution de vérité qui consiste à effectivement annoncé que le prix est ce qu'il est, que les pertes vont être considérables, et ils vont voir la Banque de France et ils disent, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Le marché entier risque de se fermer parce que les agents de change eux-mêmes risquent de plus être en mesure d'assurer la contrepartie les uns des autres à cause des pertes qu'ils vont subir de la part de leurs clients. Ils risquent eux-mêmes de faire faillite et à ce moment-là, tout le marché disparaît. Face à ce risque-là, qui est un risque de disparition d'un marché, pas d'individu, pas de banquier, pas de personne particulière, mais du marché lui-même, la Banque de France décide d'intervenir. Elle réunit tous les banquiers et elle leur dit, écoutez, on va s'arranger. Vous allez prêter de l'argent aux agents de change et moi, je vous prêterai de l'argent. La Banque de France ne peut pas prêter aux agents de change directement parce que ses statuts lui interdisent. Mais tout le monde se met d'accord sur cette solution. La banque prête 80 millions. Ces 80 millions sont utilisés dans les deux premières heures de la liquidation du 31 janvier. Et puis, il y a même encore besoin d'un peu d'argent pour finir la liquidation le lendemain. Mais finalement, ça évite, on s'aperçoit que 14 agents de change auraient fait faillite sans ça. Avec les entrées et les sorties de capitaux, les agents de change sont capables de rembourser immédiatement l'essentiel de ce prêt, hein, de prêt qui est de 80 millions auprès de la Banque de France, plus 18 millions auprès de Rothschild. Il reste à peu près 27 millions d'avances qui ne sont pas remboursées rapidement. Et vous voyez sur ce tableau, dans la deuxième colonne, avances aux agents de change, aux brokers, que ce montant va se réduire légèrement entre 1882 et 1888. Et puis, il y aura 22 millions qui seront passés par pertes et profits, qui sont les pertes réelles qui ont résulté de cette opération. C'est des pertes très importantes, puisque le fonds de réserve de la compagnie des agents de change qui est censé prémunir contre ce genre de risque, ce fonds de réserve n'atteignait que 6 millions. Ça veut dire que là, ils ont perdu trois fois leur réserve. Alors, c'est un fonds de réserve, ce n'est pas du tout la valeur de capital de l'ensemble des agents de change, qui est beaucoup plus élevée. Il y a 60 agents de change, chacun a des capitaux de l'ordre de 2 à 3 millions, et la Banque de France, en leur prêtant, savait qu'il y avait ce type de réserve. C'est-à-dire que derrière, il y a 2 ou 3 millions multipliés par 60, ça fait environ 150 millions, elle leur a prêté 80 millions, elle savait qu'en termes de solvabilité, normalement, il n'y avait pas de problème. Donc, essentiellement, on peut analyser l'intervention de la Banque de France comme un prêt de liquidité au marché pour permettre la survie du marché et la continuation du fonctionnement du marché, même si, et ce prêt étant en quelque sorte garanti par les capitaux des agents de change eux-mêmes, même si sur l'opération en question, il va y avoir 22 millions de pertes qui vont être payées par les agents de change, puisque l'extrémité de ce tableau, vous avez l'amortissement du prêt, c'est-à-dire les prélèvements sur les bénéfices annuels des agents de change qui vont permettre de payer, de rembourser ce prêt. Et en 1888, tout est remboursé et la compagnie a retrouvé son honneur, comme elle dit à l'époque. Voilà. Donc voilà la première opération, une opération d'intervention de liquidité pour sauver un marché. Maintenant, que se passe-t-il en 1889 ? 1889, c'est une année célèbre à cause du monument qui est dessiné là. C'est une année célèbre, elle se place dans un contexte économique, je l'ai dit, moins favorable, mais elle se passe dans un contexte politique très important qui est ici. Le contexte politique, c'est qu'on va fêter le centenaire de la Révolution. Et le centenaire de la Révolution, ça veut dire nous, on est en train de mettre en place une République qui va durer. Ça, c'est le message politique qu'adressent les Républicains qui sont au gouvernement en France à ce moment-là, qui ont encore été récemment menacés par les monarchistes, qui ont été éclaboussés par un certain nombre de scandales, le scandale de Panama très récemment, en 1888, d'autres scandales, mais aussi qui sont menacés par la montée, à ce moment-là, du général Boulanger. Boulanger, évidemment, aujourd'hui, ça fait général de Prérette, mais à l'époque, ça ne fait pas du tout ça. On a eu un risque de coup d'État de Boulanger tout à fait au début de 1889, et on a peur encore qu'il réalise un coup d'État ou qu'il obtienne un succès énorme aux élections qui doivent venir à la fin de l'année. Donc on est dans un contexte politique où il y a quand même une certaine inquiétude. Et évidemment, le gouvernement souhaite tout sauf une crise financière en 1889, spécialement au moment où va s'ouvrir l'exposition universelle qui va être à la gloire de la République et indirectement de M. Eiffel. Or, à ce moment-là, se produit justement une crise qui va être aiguë et qui touche une institution qui est pourtant considérée comme une institution sage, prudente, ce comptoir d'escompte de Paris qui a été créé par la Troisième République en 1848 pour régler les problèmes de liquidité survenus du fait à la fois de la crise de 1847 et de la Révolution de 1848. Et le comptoir d'escompte, institution réputée stable, s'est embarqué dans une opération tout ce qu'il y a de douteuse. Cette opération, c'est une opération sur les cuivres. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'évolution des actions des principales banques françaises pendant les années 1880. Alors, comme vous voyez, la plus grande partie vont plutôt mal. Les cours ont tendance à baisser parce que la situation économique est mauvaise et donc les cours de leurs actions ont tendance à diminuer. Il y en a deux qui ont l'air d'aller mieux, c'est le Crédit Lyonnais et le Comptoir d'Escompte. Alors le Crédit Lyonnais, en 1882, il a été un peu menacé par la crise de l'Union Générale, c'est aussi une banque lyonnaise au départ, et il avait quelques liens avec l'Union Générale. Il a souffert d'un début de crise à un moment, et depuis, il a opté pour une politique d'une prudence extrême, qui est bien relaté par le livre que Jean Bouvier lui consacre, et qui montre qu'effectivement, il est le pionnier d'une nouvelle forme de banque à ce moment-là, où on élargit beaucoup la collecte des dépôts et où on fait du crédit à des entreprises de taille moyenne, mais d'une manière extrêmement prudente. L'autre qui a l'air de se porter bien, c'est le comptoir d'escompte. Et vous voyez que le comptoir d'escompte, ça finit moins bien que dans le cas du Crédit Lyonnais. Alors, ces banques, dans ces années-là, si vous regardez leurs dépôts, vous voyez qu'on comprend bien pourquoi le Crédit Lyonnais se porte bien. Hein, le Crédit Lyonnais a une augmentation continuelle et importante de ses dépôts. Hein, même si vous vous arrêtez en 1888, c'est-à-dire aux deux tiers à peu près de ce graphique, il a très largement augmenté ses dépôts, en particulier ses dépôts à vue depuis. Hein, c'est CL, le Crédit Lyonnais. Les dépôts à vue et ses dépôts et ses comptes courants créditeurs depuis le début de la décennie. Pour le comptoir d'escompte, le CEP, c'est moins clair. En fait, il est plus ou moins dans la stabilité. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il va renaître après la crise, hein, mieux que dans les années 80. Alors, comment est-ce que le cours de ses actions peut augmenter alors que ses dépôts stagnent? Est-ce qu'il ne prendrait pas un peu plus de risques? Est-ce qu'il ne ferait pas un peu plus d'effet de levier, comme vous discutiez quand je suis arrivé? Effectivement, c'est ce qui se passe. En fait, dans le compte de profits et pertes du comptoir d'escompte, on voit essentiellement apparaître un poste autres opérations. C'est là que tous les profits arrivent. Alors, c'est quand vous voyez autres opérations comme la seule chose qui change dans un bilan, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder plus en détail. Normalement, on devrait vous en dire plus. Et bien, voilà ce qu'il fait. Il s'est embarqué dans une opération sur le marché du cuivre. Qu'est-ce que c'est que cette opération? C'est une opération par laquelle une entreprise créée par un monsieur Pierre-Eugène Secrétan, hein, tout le monde s'appelle Eugène à l'époque, il se trouve que c'est aussi le nom d'un de mes co-auteurs sur lequel on travaille ensemble, Eugène White, collègue américain, avec également Angelo Riva qui travaille aussi là-dessus. Monsieur Secrétan a créé une entreprise qui s'appelle la Société industrielle et commerciale des métaux, la Société des métaux, disons, qui est une entreprise tout à fait respectable de production de plaques de cuivre et autres dérivés du cuivre, une entreprise industrielle même qui réussit bien, qui est une des principales du monde, mais qui va s'embarquer dans une opération purement spéculative sur le prix du cuivre et qui va s'embarquer dans cette opération pour des montants très considérables. Et ces montants, elle va les trouver auprès de banques et en particulier auprès du comptoir d'escompte. Qu'est-ce que vous avez sur ce graphique? Sur ce graphique, vous avez en rose, sur l'échelle de gauche, les stocks de cuivre. Alors, les stocks sont faciles à mesurer sur ce genre d'activité parce que le cuivre en lingots, donc après transformation à partir du minerai, le cuivre en lingots est déposé dans des entrepôts, les magasins généraux, qui vous délivrent des certificats de détention et qui vous garantissent que le cuivre est bien stocké. Donc, on connaît ces stocks-là. On ne connaît pas les stocks qui sont chez les industriels transformateurs, qui évidemment peuvent s'ajouter à ça. Mais tout le monde observe ces stocks-là. Et ces stocks, ils sont en train de baisser. Ça correspond à un mouvement assez facile à observer, qu'on observe cette fois-ci sur l'échelle de droite, qui est la différence entre l'offre et la demande. Les deliveries, c'est la demande, c'est ce qui est livré aux industriels consommateurs finaux, et le rouge, c'est l'offre. La différence entre les deux, alors ça ne se voit pas très très bien parce que j'aurais pu faire des moyennes mobiles, ça serait peut-être plus lisible, mais la différence entre les deux, c'est que pendant cette période-là, l'offre a tendance à être faible par rapport à la demande, de sorte que les stocks diminuent. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, monsieur Secrétan se dit « Oh, les stocks diminuent, les prix vont monter. Si les prix vont monter, c'est le moment d'acheter. Je vais gagner de l'argent quand je revendrai après la hausse des prix. » Et il fait savoir, parce que c'est le béaba de l'histoire, il fait savoir qu'il va acheter, que par conséquent, et comme il est un des meilleurs spécialistes mondiaux du cuivre, ça se sait rapidement, qu'il a constitué un consortium pour lui prêter de l'argent pour pouvoir acheter. Et il fait savoir ça dans la presse dès 1887. Et à partir de ce moment-là, les prix se mettent à monter. Les prix sont en bleu et les prix vont augmenter très, très rapidement et à peu près doubler. Les prix sont en livres sterling et c'est des prix par tonne. Donc ça vaut à peu près 40 000... Ça vaut à peu près, je suis en train de mélanger les pieds, donc ça vaut à peu près 40 livres par tonne. Voilà. Donc c'est le prix pour 1000 livres. À ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? L'offre augmente, la demande baisse. Quand les prix augmentent, la demande généralement a tendance à baisser. Là, on voit la demande qui baisse très fortement en vert. Mais l'offre se met à augmenter. Et évidemment, pour maintenir le prix haut, M. Secrétan est obligé d'accumuler des stocks de plus en plus importants. Et vous voyez en rose les stocks qui montent de plus en plus haut. C'est un vrai cours d'économie, béaba d'économie, ce graphique. Et ça va tenir un certain temps, tant que M. Secrétan a les moyens d'accumuler du stock. Et vous voyez que ça dure jusqu'au début 1889. Début 1889, il n'a plus d'argent, il commence à vendre, et à ce moment-là, le prix s'effondre, revient en bas, et lui, il se retrouve avec une ardoise qui correspond à son stock multiplié par la baisse de prix. Évidemment, ce n'est pas lui qui se retrouve avec ça, sinon ce ne serait pas grave, il ferait faillite, et tant pis pour lui. C'est même pas des banques d'affaires dont, après tout, c'est le métier de prendre des risques, d'investir sur des actifs risqués, qu'ils disent à leurs clients, tout va bien. Non, il a embarqué dans cette histoire le comptoir d'escompte, une vieille et respectable banque de dépôt dans laquelle des centaines de milliers d'épargnants ordinaires ont leur compte en banque. Et c'est ça qui va poser, évidemment, quelques problèmes. Donc, cette opération sur les cuivres, elle est menée grâce à des crédits d'un certain nombre de banques. Il y a évidemment des banques d'affaires, il y a le comptoir d'escompte, il y a aussi Paribas. Et au moment où les choses vont commencer à se détériorer, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le marché essaye de repérer quelles sont les banques qui sont impliquées dans l'opération et celles qui ne le sont pas. Et à vrai dire, bon, là, vous avez les cours quotidiens des actions en bourse. Eh bien, c'est assez remarquable. On voit que à partir de fin 1888, les gens commencent à anticiper que la société des métaux, elle a peut-être réussi à faire monter les prix, mais elle va avoir du mal à revendre ses stocks. Donc le cours de l'action de la société des métaux commence à se casser la figure. On ne sait pas encore combien elle risque de perdre, donc ça descend progressivement. Mais effectivement, elle, elle a investi là-dedans, c'est son capital, et on se dit, bon, bah, son capital, au fur et à mesure qu'on anticipe des pertes plus élevées, on voit son capital fondre. Pour les banques, c'est plus radical. Hein. Les cours restent très stables jusqu'au moment où on voit vraiment que la société des métaux commence à vraiment se casser la figure. Et là, on a quelques banques dont les cours sont affectés. On a Paribas, qui effectivement a mis de l'argent là-dedans, mais qui en a mis des quantités raisonnablement limitées. Et puis on a le comptoir d'escompte, dont les actions s'effondrent complètement. Alors, est-ce que le marché est bon ? Eh bien, il se trouve qu'il n'est pas mauvais. Ça, c'est une information un peu plus privée, un petit peu plus discrète. C'est l'information qu'accumule la Banque de France sur cette opération, quand elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est assez tard, mais à partir de la fin de 1888, la Banque de France commence à dire « je voudrais être informé de la situation sur ces actifs-là ». Et en particulier, pourquoi ? Parce que les banques qui ont prêté à la société des métaux, elles ont prêté en prenant en garantie les stocks de cuivre de la société des métaux. Ça, c'est le prêt qu'on appelle du prêt sur warrants de cuivre à l'époque, ça n'a rien à voir avec d'autres warrants. Les warrants de cuivre, c'est ces certificats que délivrent les magasins généraux aux détenteurs de cuivre. Donc, un certain nombre de banques ont prêté à la société des métaux et sont allées tout benoîtement à la Banque de France lui demander d'escompter ces warrants. La Banque de France l'a fait un petit peu, elle le fait avec prudence. Évidemment, c'est elle qui devient détentrice des warrants et donc des garanties. Mais le prix du cuivre a tellement augmenté que même en étant prudente, en fait, elle prête quand même pour une valeur supérieure à la valeur du cuivre après la crise, ou avant le début de la spéculation. Mais pas beaucoup. Bon, la Banque de France ne court pas des gros risques. En revanche, toutes ces autres banquiers qui ont prêté des montants qui sont beaucoup plus proches de la valeur de marché des cuivres, c'est-à-dire de la valeur des marchés en haut de la bulle spéculative, se retrouvent beaucoup plus engagé. La Banque de France regarde, elle étudie ça, on a ce genre de tableau où on voit pour chaque banque les montants engagés, et ce qu'on voit tout de suite, c'est que la banque la plus engagée, c'est le comptoir d'escompte. Et à un moment, la Banque de France dit, bon écoutez, moi je voudrais avoir un peu plus de précision là-dessus, elle convoque le patron du comptoir d'escompte et lui dit, expliquez-nous ce qui se passe. Et ça se passe assez mal, ils passent pas mal de temps ensemble, et après ce temps-là, la Banque de France fait le bilan des choses et elle a découvert que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'elle pensait parce que le comptoir d'escompte a prêté des montants tout à fait considérables à la société des métaux. Donc vous avez ça sur ce tableau qui, à vrai dire, est peu lisible, mais je m'en excuse. Elle a prêté de l'ordre... Alors il y a le problème, c'est qu'il y a plusieurs types de crédits, donc on a du mal à savoir exactement, et ça varie évidemment dans le temps, parce qu'au fur et à mesure que toutes les autres banques essayent de se retirer, le comptoir d'escompte devient en fait le seul prêteur de l'opération. C'est-à-dire qu'il se fait refiler les créances des autres banques dans l'opération. Les autres banques sont plus malignes, elles réussissent. Alors, on va comprendre dans un instant pourquoi. Le comptoir d'escompte se retrouve à la fin avec de l'ordre de 150 millions de crédits à la société des métaux, ce qui est déjà plus que l'ensemble, beaucoup plus que le capital du comptoir d'escompte. Si on calcule les pertes possibles dans cette opération, c'est de l'ordre de 50 à 60, voire 80 millions. Et 80 millions, c'est le montant du capital du comptoir d'escompte. Donc évidemment, la Banque de France est inquiète à juste titre. Et surtout, elle a découvert une chose bien pire, c'est que non seulement le comptoir d'escompte a fait ses prêts pour des montants absolument faramineux, mais en plus, il a, en hors-bilan, donc bien caché, des garanties pour le prix de livraison de cuivre futur, pour les années futures, pour la deuxième moitié de 1889 et 1890. C'est-à-dire qu'il a garanti qu'il prêterait les montants nécessaires pour acheter 45 000 tonnes de cuivre en 1889 et 53 000 tonnes en 1890. C'est-à-dire à peu près la moitié de la production mondiale, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est quand même des gros, gros montants. Ce qui veut dire que là, si on prend tout, Là, il a perdu une fois et demie son capital, à peu près, si on suppose que les cuivres reviennent au prix d'avant. Donc, quand la Banque de France voit ça, elle dit « ça ne va pas du tout ». Et elle cherche à comprendre ce qui s'est passé. Elle cherche à comprendre, et en fait, ça va être assez facile à comprendre. Ça peut se voir à partir de cette chose-là, qui n'est pas très jolie. Ces gens-là sont les administrateurs et également les gens qui jouent un rôle de vérification des risques dans les principales banques. Et ce qu'on observe, c'est que la Société des métaux a réussi à établir des liens très étroits avec le comptoir d'escompte à travers toute une série de personnes, avec Paribas également, avec un certain nombre de banquiers privés qui sont directement présents autour d'elle, comme Hensch ou Giraud, mais aussi, et c'est ça la chose peut-être la plus inquiétante, avec la Banque de France. C'est-à-dire que la Banque de France elle-même, à travers Tessonnière et Baudelot, qui sont justement les deux personnes chargées de surveiller les risques à la Banque de France, qui sont des administrateurs du comptoir d'escompte, s'est laissé embarquer, dans une certaine mesure, dans cette opération. Et la chose va très mal finir. Après son entrevue avec le gouverneur de la Banque de France, le président du comptoir d'escompte s'enferme chez lui et se tire une balle dans la tête. Le lendemain, évidemment, il y a une panique quand on apprend ce qui s'est passé. Tout le monde veut retirer son argent du comptoir d'escompte. Le gouvernement appelle la Banque de France. Il dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai l'exposition universelle qui ouvre dans quelques semaines. La Banque de France convoque toutes les banques. Il y a une réunion qui dure toute la nuit. Et le lendemain matin, elle réunit son conseil d'administration et leur dit, voilà ce qui peut se passer. Propose qu'on prête 140 millions au comptoir d'escompte. On va prendre tous ces actifs en garantie, mais comme vous savez, ces actifs, il y a aussi beaucoup de passifs. Le conseil des régents de la Banque de France discute, et là, on voit une chose exceptionnelle, c'est les régents quasiment se battre entre eux, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont dans ce réseau. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui ont participé à l'opération et qui vont imposer, avec évidemment, qui vont aller dans le sens du gouverneur et du gouvernement qui veulent sauver le comptoir d'escompte pour des raisons politiques, mais qui vont imposer cette opération de sauvetage contre l'avis des plus classiques de la maison qui disent, mais attendez, c'est une spéculation privée, ils ont pris des risques complètement délirants, ils ont fait n'importe quoi, il n'y a aucune raison, on ferme la boutique et c'est fini. Bon. Donc, effectivement, ce n'est pas très joli ce qui s'est passé. À ce moment-là, on voit, effectivement, les gens discuter sur une chose, finalement, est-ce qu'on risquait d'avoir une panique généralisée ? Parce que, finalement, le seul argument qui reste pour sauver l'intervention de la Banque de France, qui quand même ressemble beaucoup à une opération faite par des amis pour des amis, c'est l'idée qu'il y avait une crise majeure de la place qui était risquée, qui était sur le point d'arriver. Alors, parmi les choses qui peuvent donner une petite idée de ça, il y a effectivement le risque d'avoir une fuite vers la qualité. Les moments où, dans les crises, on voit tout le monde essaye d'aller vers les actifs sans risque et fuir les autres. Donc, effectivement, les comptes courants de la Banque de France reçoivent beaucoup d'argent. Mais en même temps, la seule banque pour laquelle on ait les opérations à très haute fréquence, c'est la Société Générale, montre qu'il n'y a aucune fuite de la Société Générale. Apparemment, il n'y a aucune fuite non plus du Crédit Lyonnais. On a vu que les cours des actions étaient affectés pour le comptoir d'escompte et pour Paribas, mais pas pour les autres banques. Donc apparemment, la place de Paris, disons, pense que, bah, effectivement, il y a une banque, une grande banque de dépôt, le comptoir d'escompte, qui a fait des bêtises. Il y a des banques d'affaires, dont Paribas et d'autres, qui ont fait des bêtises, et elles le paieront. Et après tout, tout le monde trouve ça normal. Les autres banques n'ont pas l'air d'être réellement touchées. Donc effectivement, on se demande à ce moment-là si il fallait réellement intervenir. Alors, malgré tout, pour sauver les choses, comment est-ce que cette opération s'est achevée ? D'abord, la Banque de France pouvait se le permettre. Elle pouvait se le permettre parce qu'elle a un taux d'encaisse, c'est-à-dire des réserves tellement élevées que même si elle baisse un petit peu, ça n'a aucune importance pour sa solidité. Donc la Banque de France elle-même n'est absolument pas menacée. Donc, c'est la première condition, elle peut se le permettre. La deuxième chose, c'est que finalement, l'opération ne va pas être perdante. C'est-à-dire que la Banque de France, ayant pris la totalité des actifs du comptoir d'escompte en contrepartie de ses prêts, ayant une garantie conjointe d'un certain nombre de banques pour un montant non négligeable de 20 millions, ayant en outre la possibilité d'engager des poursuites contre un certain nombre de gens, va réussir finalement à se rembourser entièrement de son prêt extrêmement rapidement et donc ne va rien perdre. Donc, en un sens, on peut se dire, voilà, la Banque de France n'a rien perdu, sa solidité n'a jamais été mise en cause. Où est le mal ? Est-ce que le mal n'est pas simplement ce qu'on appelle le risque moral, c'est-à-dire d'avoir d'autres gens qui se disent, puisque ça a marché avec le comptoir d'escompte, on va faire pareil. Alors, la seule chose qu'on peut dire sur le côté du risque moral, c'est que malgré tout, on avait un sentiment assez strict de la moralité à ce moment-là. Et bon, d'abord, le président du comptoir d'escompte a mal fini, comme je vous l'ai déjà dit. Mais tous les membres de ce conseil d'administration ont été poursuivis sur leur fortune personnelle et y ont laissé beaucoup d'argent. En 1910, on trouve encore une trace dans les archives de la Banque de France. Enfin, on trouve dans les archives de la Banque de France une trace d'un document de 1910 par lequel la banque fait saisir un bien immobilier que tente de vendre la femme d'un des membres du conseil d'administration, en arguant que ce bien lui a été cédé par son mari après cette opération et que cette cession n'était pas légitime puisque la banque avait un droit prioritaire dessus. Donc, on a vraiment poursuivi les gens sérieusement. Et évidemment, ça, peut-être que ça suffit à restreindre un peu leur comportement. Il reste que la Banque de France, dans cette opération, n'a pas fait le prêteur à la béchotte, elle n'a pas prêté au marché en échange d'actifs sans risque, elle a prêté à une banque, alors que la panique générale de la place n'allait pas de soi, et elle a prêté avec des garanties qui étaient faibles, même s'il s'est avéré qu'elle ne souffrait pas de perte à la fin. L'apprentissage des banques centrales peut donc prendre des voies variées et les plus apparemment respectables jouer quelquefois des rôles plus dangereux que ce qu'ils donnent l'air par la suite. Voilà, je m'arrête là.